Paris aussi, Julien, c'est des températures invivables.
C'est totalement invivable en ce moment, ouais. Je pense que dans ton coin aussi, c'est compliqué. Mais dans le mien, bah, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Et puis bon, le climat n'est pas foufou en ce moment. Donc ouais, clairement, c'est ultra invivable.
Salut Julien, salut Flavien.
Ah, salut, Père Castor,
Hey,
ça va?
salut.
Écoute, nickel.
Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, dis donc.
Écoute, depuis le week-end proxy jeu, ouais, je suis. Tu sais, les castors, ça hiberne au
Ça
printemps et là je
hiberne.
sors. Voilà.
Ah oui, forcément, donc pas trop chaud quand même pour un castor en ce moment.
Je souffre, je souffre.
Tu souffres.
Mais je suis occupé au fond de ma cave à faire du deck building.
Ah bah toi aussi, parce que moi du coup je suis vachement sur un deck building en ce moment.
Ah bon? T'as joué à quoi?
Eh ben, j'ai joué à un jeu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Slay the Spire. Je pense que c'est un jeu que vous connaissez et qui a fait pas mal de bruit. C'est à l'origine un jeu vidéo. Je sais pas si vous avez déjà touché un petit peu à Slay the Spire, le jeu vidéo.
Ouais, moi j'ai joué quand c'était encore en early.
Ah oui, ça fait longtemps. C'était en
Ouais,
2017 ou un truc comme ça,
ça date.
18.
Ça date, j'étais une des personnes qui disait que les critiques de jeux vidéo se réjouissaient et découvraient le deck building alors qu'en fait c'était pas une mécanique très originale.
Mais c'est un deck building où il faut que tu achètes des trucs.
Non, non,
C'est
t'as,
du
en fait,
pay to
à
pay to
l'origine,
play,
t'achetais
enfin.
ton jeu. Et t'avais tout dedans en fait. Et il suffisait de débloquer les choses au fur et à mesure en réussissant des épreuves, quoi. Mais tout était intégré dans le jeu vidéo. En tout cas, ça marche comme ça. Et donc du coup, donc c'est un deck building et c'est en même temps un roguelike. Donc on explore un donjon en même temps. Pour te la faire très 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 court, en gros on avait un héros, on avait une main de départ qui était une main standard qui était liée à notre héros. Et on avait une carte, une map, sur laquelle on pouvait faire un chemin qui nous amenait à un boss. Et dans ces chemins, on pouvait rencontrer des monstres ou des événements. Et donc, bah, comme de façon très très basique, tu bats le boss, t'as trois étages comme ça à faire, donc tu le fais trois fois, et t'arrives à la fin du jeu. Donc c'est un jeu assez standard, mais Camille, enfin, disons que pour le jeu vidéo, ça a créé un peu une sorte de
Un sous-genre, ouais.
standard, ou ouais, un sous-genre.
On parle aujourd'hui de roguelite deck builder, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça.
Et ce qui était intéressant, c'est du pur puzzle. En tout cas, le jeu vidéo, tu me diras, Julien, parce qu'en fait, tu sais, comme tu étais en solo, t'as pas le côté confrontation à l'autre et essayer de faire ton deck et l'aspect course disparaît en fait. Dans un
Totalement.
dominion, tu vois, c'est une course en fait.
Totalement,
Là,
ouais.
c'est vraiment du puzzle où tu sais ce que vont faire tes adversaires, donc les ennemis que tu vas rencontrer dans les différentes salles. Et toi, en fait, tu dois réagir en amont, donc tu fais ton truc, parce qu'en gros, c'est un jeu de survie aussi.
Ouais, oui, d'optimisation et de survie. Ouais, c'est ça. Mais moi, le truc que j'ai adoré dans Slay the Spire, le jeu vidéo, c'est les reliques. C'est pour moi ce qui fait vraiment le sel du jeu. Donc en gros, les reliques, ce sont des petits objets qui vont donner un tout petit bonus à des moments particuliers. En fait, ils vont s'activer selon certaines conditions. Par exemple, un truc tout bête, tu joues une attaque. Ou plutôt, tu joues trois attaques, ça va activer ta relique qui va faire que tu vas piocher une carte. Bon, je dis un truc au pif, mais c'est le genre de choses. Et ce qui est assez jouissif dans le jeu vidéo, c'est que bah, tu vas en avoir une vingtaine de reliques à la fin de ta partie, et elles vont toutes faire des combos dans tous les sens, et ce petit élément que ça rajoute, bah, vu que ça va comboter avec tes cartes, avec les reliques entre elles, et bah, ça va faire que ton deck va devenir ultra explosif, et ça part dans tous les sens.
Et les reliques, tu les deck build ou tu les rencontres au fur et à mesure de ta progression?
Tu les rencontres, mais tu peux en choisir à la fin de certains
Ouais,
monstres
en
ou de
gros, ouais,
certains
tu te fais un
boss.
build, quoi.
Ouais,
Ça
c'est
te
un
fait un
build, ouais.
build.
C'est comme si que t'avais des cartes. Enfin, tu peux. C'est pas comme des cartes, mais en tout cas, on t'en propose trois, t'en choisis une, et tu peux en effet essayer de les faire comboter entre elles, quoi.
C'est vrai que le jeu de société, bon, il est passé par financement participatif, hein, je crois, évidemment, et
Ouais.
il y a plein de financements participatifs comme ça qui sont des produits dérivés de jeux vidéo. Parce que en fait, les joueurs de jeux vidéo vont les acheter comme des goodies. Ils connaissent pas forcément, ils vont pas les juger pour leur qualité ludique. Et moi, j'ai souvent une grosse méfiance vis-à-vis de ces produits dérivés. Surtout que là, ces Contention Games, ils sont pas très connus. Il y a un, en fait, c'est tous des designers, là, Gary Dvoreski et tout. Ils sont trois et il y en a qu'un qui a fait un truc qui est Imperium The Contention, qui j'imagine ça a donné son nom à l'éditeur. Donc c'est aussi des nouveaux venus. Alors ça peut être des bonnes surprises, mais bon, moi je t'avoue que j'y allais vraiment avec précaution, et en plus quand le KS ou le Game Phone, je sais plus, était sorti,
c'est un KS, ouais.
J'avais eu des reviews, alors depuis il y en a eu des plus positives, mais moi je sais qu'il y en a plein qui des reviews anglophones où les gens disaient bah en fait ne l'achetez pas quoi, c'est de la merde.
Bah quand tu dis c'est un petit goodies, il faut quand même parler du prix, hein. C'est un goodies qui allait de 115€ à 170€ selon comment on voulait, si vous voulez des pièces en fer ou ce genre de choses quoi. Donc ouais. Enfin, quand même 170 balles quoi, c'est quand même pas rien.
Ouais. C'est un goodies collectible.
Ah oui, alors là pour le coup, vraiment énorme.
C'est à la même gueule que le jeu de société parce que c'est que le jeu vidéo, parce que je sais que c'était une des grosses critiques du jeu vidéo. Alors moi ça m'a jamais dérangé parce que c'était lisible, mais ouais. Le truc c'est un super système et putain que c'est moche quoi.
Bah alors moi je suis plutôt aficionados des graphiques du jeu vidéo, donc ça me pose pas de problème, mais c'est vraiment du coup un copier-coller, c'est-à-dire qu'ils ont fait des screens de leur écran et ils ont mis ça sur des cartes, hein. Ça va vraiment jamais plus loin.
Il y a quand même eu un travail d'ergonomie sur les cartes par rapport aux caractéristiques qu'on voit.
Oui mais après disons que là pour le coup c'est plus vraiment le travail d'illustrateur, mais oui t'as de l'ergonomie qui permet en effet de lire le truc quoi.
Et justement, cet ergo, ça donne quoi? Parce que l'intérêt d'un deck build en jeu vidéo, c'est que les points de vie, les effets, les combos, elles, ils se résolvent de manière automatique. Tu vois, Marvel Snap, si je le mets en jeu de société, ça va être compliqué à gérer. Là, ça se passe comment?
C'est même pire, parce que là, enfin, c'est même pire qu'un Marvel Snap, parce qu'encore, Marvel Snap, t'as tes 10 cartes, t'en sors 8, enfin non, même pas 6 par partie, tu vois, en son modo. Donc ça reste quand même assez limité. Là, faut imaginer que chaque petit élément joué va avoir une incidence sur une quantité astronomique d'autres choses, et en effet, bah, t'as toute cette automatisation sur le PC, enfin sur l'ordinateur ou ta console, qui est faite et qui est même transparente. C'est-à-dire que moi, je me souviens que je faisais des parties où parfois je me souvenais même plus que la relique allait s'activer quand il se passait ceci, il se passait cela, parce que ça dégueule tellement d'effets et de combos qu'on fait presque plus attention à toutes les parties, quoi. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, et ce qui est plutôt assez malin, c'est que déjà, ils ont ramené tout ce qui est points de vie, points de dégâts, etc., à des chiffres qui sont des chiffres facilement calculables. Donc, en gros,
des multiples de 5 ou des trucs comme ça.
Même pas, c'est-à-dire que, par exemple, les points de vie, on a 10 points de vie et on pourra jamais en avoir plus. Alors que dans le jeu, il y avait des combos qui permettaient de monter à 200, 300, 400. ça pouvait, être quelque chose de très particulier. Mais, je pense qu'ils sont...
C'est qu'en même temps le côté satisfaisant du jeu aussi. Hein,
et... Tout à fait, bah oui. Pour le coup, on pouvait orienter et ça se voyait dans le personnage, comment il allait pouvoir évoluer, si on lui mettait plus d'armure ou autre, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, on le voyait presque physiquement évoluer, quoi. Et là, après on comprend, si on commence à mettre 500 points de vie, quand t'as un boss qui va te mettre 77 points de vie, points de dégâts, plus un autre qui va te donner 25, plus un autre qui va te donner 33, en fait c'est chiant à calculer. Donc... ils ont tout ramené sur des nombres assez réduits pour que les calculs se fassent assez simplement. Donc en fait, les monstres, ils vont faire 1, 2, 3 dégâts. Rarement plus, en fait, parce que finalement, tout va se rapporter sur une petite échelle.
Et ils ont gardé la structure roguelite avec les embranchements et tout ça, ouais.
Ouais, ça n'a pas bougé. Mais avant, avant de parler de l'aléatoire par rapport à justement au lieu, il y a un truc que j'ai trouvé assez amusant, c'est quand moi je l'ai testé dans mon association de jeu, et quand il a ouvert la boîte, il a mis tout le matériel sur la table, et j'ai eu vraiment une impression de je sais pas si le mot existe, dénumérisation du jeu en fait. J'avais vraiment l'impression que c'est comme si c'était une sorte de scan généralisé et que je retrouvais exactement mon jeu mais étalé en une fois sur la table.
Un peu comme dans les années 80, un film de SF où t'as le truc qui sortirait de l'écran de sec.
C'est exactement ça, ouais. Comme si t'as primé directement ta page, tu vois, de ton écran. Ouais. Et du coup, la sensation était assez étrange de voir cette forme de dénumérisation parce que je me suis rendu compte que Slay the Spire, ça prenait tant de place sur une table si on le faisait réel, en fait. Et du coup, je m'amusais à me dire...
Il y a le côté vertigineux un peu, ouais.
Voilà, il y a le côté un peu vertigineux, ouais. Et je me disais, en fait, on pourrait presque s'amuser à faire cet exercice pour toutes les choses numériques, à s'imaginer quelle place ça pourrait prendre.
Un civ ou une civilisation ou un truc comme ça. Ouais.
Voilà, enfin, je pense qu'il y a des choses, ça pourrait être démentiel, quoi. Donc, c'était assez marrant comme principe. Et du coup... Pourquoi moi je voulais absolument tester ce jeu? C'est parce qu'en effet, comme tu l'as un peu parlé, il y a une partie d'aléatoire dans le jeu vidéo qui est extrêmement importante. Donc, pour le jeu de cartes, donc la partie deck building, ou alors les lieux que l'on trouve sur la carte principale, donc on va se diriger d'un lieu à un autre, passe par un principe qui est très basique, c'est que bah il y a une pioche, on pioche dans cette pioche pour se faire son deck de cartes et on choisit ses cartes. Finalement, c'est un peu comme pas comme Dominion directement parce qu'il y aura un magasin de Dominion. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est se dire comment les reliques vont s'activer. Vu que dans le jeu vidéo, eh ben, il suffit d'un petit élément pour en activer une pléthore qui vont même se répondre entre elles. Donc ça, en fait, moi, je me suis dit, mais le jeu, il va être imbitable. On va passer son temps à faire des manipulations dans tous les sens, à regarder chaque carte pour savoir si elle s'active ou pas. Donc je me suis dit,
ça peut regarder tous les déclencheurs induits, indirects, passifs, et j'imagine la galère.
C'est horrible, en fait. Donc je me dis, comment ils ont pu réussir à faire ça? Et un autre élément, c'est les intentions des monstres ou des boss. Donc, en gros, dans le jeu vidéo, eh ben, il y a des monstres qui vont être en réaction par rapport à certaines choses qu'on va faire. Mmh. Et puis, il y a d'autres monstres qui vont avoir des actions en boucle. Ils vont avoir une sorte de timeline sur lequel ils vont toujours faire les mêmes choses. Mais ça, je me dis, pareil, ça va être ultra laborieux de trouver un système qui va nous simuler ce genre de choses.
Non, en fait, la question, c'est comment est-ce que tu retranscris une essence de jeu tout en t'abolissant un peu de toutes les facilités du numérique, comment tu transposes un outil numérique en outil physique. Et moi, j'avais peur que justement, ils essayent de faire pareil et qu'en fait, ça marche pas du coup parce que tu peux pas faire pareil, tout simplement. Quoi.
Exactement. Du coup, ils ont eu cette idée qui est assez, assez géniale, tellement elle est simple. C'est que au début d'une manche, on va prendre un dé, on va lancer un dé de 6 faces et le résultat qui va être sur le dé va activer ou non pour tout le monde à la fois les reliques et à la fois les intentions des monstres. Et donc, par exemple, si je fais un 1, et ben ça va activer toutes mes reliques sur lesquelles elles s'activent avec un 1. Il y a des reliques qui s'activent avec plusieurs faces et d'autres avec une seule, ben celle-là, ça sera qu'avec le 1. Et les monstres, c'est la même chose. Il y a sur chaque carte, et ben il y a, alors la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que du 1 à, enfin, la face 1 à 2 va faire telle action, 2, 3, 3 4, telle action, etc. jusqu'au 6.
Donc tu probabilises quoi, t'as pas la certitude qu'il va se passer ça, mais tu te dis bon bah il peut se passer ça, ça ou ça quoi.
C'est ça, et la plupart du temps les boss vont avoir une timeline d'action qui va être à jouer de façon bête et méchante, et il peut arriver que selon une certaine condition, eh ben on dit, enfin que la carte explique, eh ben vous sautez l'étape 3, vous passez à l'étape 4 directement, ce genre de choses quoi. Mais ça fait que ça permet quand même vachement facilement à jouer, sans se prendre la tête à regarder chaque carte, quoi. Un seul lancer de dés, et ça résout, entre guillemets, les déclencheurs pour tout le monde. Et ça, c'est assez génial.
Et du coup, ouais, tout ce qui est manip et tout, pas trop laborieux?
Non, parce que, bah, après, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Donc, si tu y joues à 4, et bah, tu divises par 4 les manips. T'as tes manips à toi, personnel, mais sinon, pas beaucoup plus.
Mais justement, tu dis de 1 à 4. Moi, j'ai eu des retours comme quoi le côté coop était... J'ai vu des retours comme quoi bah, c'est un pur jeu solo, en fait, et d'autres comme quoi bah, c'est la coop qui donne tout son sel au truc, là où le jeu vidéo est exclusivement solo, et l'avantage, effectivement, de... Tu fais ton ascension, pouf, tu prends ta demi-heure, c'est fait, et puis voilà, quoi.
C'est ça. Je pense qu'en fait, le succès de ce KS, c'est parce qu'on a dit à des gens qui étaient méga fans du jeu, vous allez pouvoir y jouer à plusieurs. Et en fait, ça, rien de le fait que de l'imaginer... Bah, enfin, je pense que ça peut déclencher des achats, en fait. Je sais que en ce moment, il y a des modes maintenant sur le jeu vidéo qui permettent d'y jouer à plusieurs. Donc bon, ils ont finalement essayé de réimiter ce que le jeu de société a réussi à inventer, ce qui est assez amusant. Mais en effet, c'est un des gros paris du jeu, et c'est pour moi là la grosse faiblesse de la promesse du jeu. Donc de façon basique, eh ben, on a tous un héros, enfin chaque personne qui va jouer va avoir un héros avec son deck à lui. Pour les combats, c'est assez basique, c'est qu'on va avoir une ligne qui va nous être attribuée, et on va mettre à chaque fois le nombre de monstres indiqués sur la règle, quoi. Et les dégâts des monstres vont s'appliquer à tous les joueurs, alors que les dégâts des joueurs vont s'appliquer sur un monstre en particulier. Mais on n'est pas obligé de taper le monstre dans sa ligne, on peut taper la
monstre... C'est King of Tokyo, en fait.
C'est un peu comme un King of Tokyo, ouais, ouais. C'est un peu le même principe. Et donc, quand on m'a expliqué les règles, je me suis dit, ok, il va y avoir une vraie logique à faire de la coopération, parce que bah, peut-être qu'il y en a qui vont s'orienter plus sur de la def, d'autres plus sur de l'attaque, ou ce genre de choses. Et au final, on a commencé à jouer comme ça. Et j'avais eu l'impression au début, quand les trucs n'étaient pas encore trop difficiles, quand les monstres n'étaient pas encore trop difficiles, que nos decks personnels, on pouvait presque les rassembler à une sorte de méta-deck qui serait un peu la solution pour répondre à la situation. Et je, au début, je trouvais ça plutôt pas mal.
En fait, tu répartis ton hasard par rapport au lancer de dés en disant, toi, tu vas avoir un deck plutôt sur le chiffre 1-2, un autre joueur sur les chiffres 2-3 pour essayer de mitiger le hasard au niveau des actions-réactions.
Tu peux le faire dans le sens où les reliques qu'on va réussir à récupérer, on va pouvoir se les partager. On va pouvoir dire, bah tiens, toi, il y aura plus avec toi, il y aura plus avec, avec ton deck, il est plus défensif, ce genre de choses. Donc tu vas un petit peu jouer sur, en effet, le hasard du dé à la manche. Mais c'est là où, moi, j'ai trouvé qu'à un moment, il y avait un gros hic. C'est que les phases de combat durent un temps qui est gigantesque.
Ok.
Parce que le jeu ne propose pas d'ordre du tour. En fait, chacun joue ses actions comme il l'entend.
Ah, ok.
Et on peut jouer nos... Alors, on a des manas, du mana, hein. On peut jouer tout notre mana, et puis après, ça sera avec quelqu'un d'autre, comme on peut croiser,
oh,
on fait ce qu'on veut.
D'accord, j'imagine les discussions interminables qui peuvent...
Et voilà. En fait, moi, au début, j'étais content, je commençais à expliquer à mes deux... On jouait à trois, donc à mes deux autres camarades, je leur dis, ah, bah, peut-être que si je fais ça, ça t'intéresserait. Et puis, ils m'ont regardé, eux, ça, c'est déjà pas mal de fois qu'ils y avaient joué. Ils m'ont fait, ah, non, non, mais en fait, on va jouer en simultané, parce que sinon, c'est une purge, quoi. Donc, okay. On commence à jouer en simultané, et là, bah, ça devient le bordel, mais total.
Ah ouais, c'est-à-dire t'as aucune cohésion, quoi, ouais.
On comprend rien. C'est-à-dire que, en plus, les monstres, comme on peut faire des dégâts sur n'importe quel monstre, et ben, ça fait que, ben, y en a un, il va prendre des dégâts, il va les mettre dessus, et puis finalement, il va se dire, ah non, c'était pas bien, je vais rollback, pouf, il rollback. Donc, après, tu te retrouves, toi, à dire, ah, mais attends, mon truc, ma carte, elle déclenche telle relique, du coup, ça fait tel effet. Ah, ben, de toute façon, le monstre, il est déjà mort, vu que l'autre, il a déjà fait son action. Enfin, ça fait que, ça devient un chaos horrible. Qui fait que oui, c'est brouillon, c'est une mélasse, en fait. Mais le problème, c'est que si on faisait tour par tour, même si la règle ne le précise pas, mais si on faisait tour par tour, le moindre petit combat contre une petite créature prendrait une plombe. Ouais. Donc, en fait, on est obligé de jouer...
obligé de changer le jeu, quoi.
On est obligé de changer le jeu pour qu'il soit pas bon, mais qu'il soit au moins finissable, qu'on puisse en finir, quoi. Et donc... Là, en fait, j'ai trouvé que c'était très, très, très particulier comme sensation. Notre partie, on l'a même pas finie parce qu'il faut faire trois étages. On arrive au deuxième étage et on a mis 3h30 pour arriver au deuxième étage. Et on a fait un truc brouillon. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réfléchi de façon coop.
Il n'y a pas, genre, comme dans 7e continent ou quoi, tu vois, un truc où tu te dis, bon, on fait un étage, de manière brouillonne ou pas, ça, tu vois, à la discrétion des personnes qui jouent.
Ouais.
Il y a un module de sauvegarde, paf, on se fait un deuxième étage une autre fois.
Je sais pas s'il y a un module de sauvegarde. Ouais. Ça, je sais pas. Non, aucune idée. Dans la boîte, il y a beaucoup de rangements dedans.
Ouais, il y a bien une sauvegarde. Hein. Tu peux sauvegarder à la fin de chaque acte. Ils disent, dans le règle, ils disent c'est divisé en actes. Chaque acte, ça va prendre 60 à 90 minutes. Votre première partie va être plus longue, mais vous pouvez continuer ou bien faire... vous arrêter après un acte ou bien continuer et sauvegarder.
Ok. Mais ouais. Heureusement qu'ils ont fait ça, parce que sinon, ouais. Ça serait impossible à sortir.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et donc, il y a donc l'élément de l'aléatoire du deck building qu'on retrouve partout. Dans le jeu vidéo, il est assez intéressant parce qu'il y a un moment où, dans les niveaux de difficulté qu'on nous donne, on va demander aux joueurs d'avoir ce que je vais appeler un deck cheaté. C'est-à-dire qu'on va rouler sur le jeu, enfin, pas forcément qu'on va rouler sur le jeu, mais en tout cas, on va faire des combos qui sont vraiment des combos ultra puissants qu'on n'a pas l'habitude de faire à chaque partie. Et dans le jeu vidéo, ils nous demandent ça à certains niveaux pour avancer. Je vais dire que c'est peut-être quelque chose qui arrive une partie sur trois, où on va avoir l'impression d'avoir vraiment un deck qui tourne beaucoup mieux que d'habitude. Et c'est une sensation que j'aime bien, qui me pose pas de problème. Et quand j'ai pas de chance et que j'arrive pas à avoir les cartes que je veux, et dans le jeu vidéo, c'est pas trop gênant, parce que je fais start, et je fais relancer la partie, et c'est reparti en fait. Ça m'a pris 2 secondes. Là, le problème, c'est que cette sensation et ce hasard de deck building avec ce côté cheaté, ils ont exactement fait la même chose dans le jeu de société. Et là, on se pose la question, on est dans deux situations. Soit personne n'arrive à être cheaté, et dans ce cas-là, en fait, on sait que dans une heure, on devra recommencer, parce que les combos ne sont pas là. Donc je trouve que la sensation est quand même très étrange. Il faut tout remettre en place.
Tu peux pas faire de mulligan.
Bah, en plus, il y a pas de... ça serait pratique, mais on peut même pas, quoi, tu vois. Mais en plus, comme ça va se construire au fur et à mesure, il y a ce côté très aléatoire qui est très difficile à gérer, en fait. Et donc, tu te dis, bah, on repart pour refaire notre donjon depuis le début, refaire la mise en place. Enfin, c'est horrible. Et ouais. Autre élément, et c'est ce qui m'est arrivé dans la partie, c'est qu'il y a un joueur sur la table qui a eu un deck, enfin, qui a monté un deck totalement cheaté. Et là, on a été comme deux cons, les deux autres ont été comme deux cons à le regarder jouer. Et lui, bah, il kiffait de ouf, hein. Nous, nos tours duraient à peu près 2 minutes, et lui, ses tours pouvaient durer 10 minutes. Parce que il faisait tellement de combos, ah. Mais comme dans le jeu vidéo, hein, d'ailleurs.
Ouais, ou comme dans Dominion, en fait, quand quelqu'un meule son deck entièrement, ouais, si tu veux.
Mais en pire, à mon sens, en pire. Parce que là, enfin, t'as tellement de petits éléments qui vont se déclencher que tu peux vraiment faire des tours dans des tours dans des tours. Et il en arrivait à que les monstres n'attaquaient pas. En fait, c'était jamais leur tour à eux. Donc, c'était un peu long à faire pour lui, mais à la fin, il arrivait à tuer tout le monde. Et bah moi j'essayais péniblement de comprendre ce qu'il faisait, mais le problème c'est que bah déjà moi je vois pas sa main, donc je sais pas trop ce qu'il est en train de jouer, mais en fait tu peux pas suivre ce qu'il est en train de faire parce qu'il y a trop d'éléments à regarder. Et l'autre personne qui joue avec nous, bah c'est même à chaque fois elle se levait à chaque fin de tour, elle se levait puis elle allait regarder d'autres tables de jeu.
Ou bien juste en solo, tu vois, c'est ce que j'avais lu ici et là, où tu fais que du solo et du coup bon autant jouer. Tu vois, c'est plus ou moins du copier-coller du jeu vidéo. Ben, en fait, je préfère lancer ma partie de 45 minutes où je sais que ça va être un bon jeu plutôt que de me détaper 24 pages de règles.
C'est ça. Et surtout que le jeu doit coûter aujourd'hui 10 balles, quoi. Le seul truc que je trouve cool, c'est que on fait du coup ce deck building, qui est un deck building virtuel dans le jeu vidéo, et ben il devient réel. C'est-à-dire qu'on a les cartes dans les mains, on a la sensation du toucher, on a la manipulation. Et ça, c'est vrai que c'est ultra kiffant. Mais après, ça s'arrête là, en fait. Le reste, ça devient ultra barbant, quoi. Donc, très très grosse déception pour Slay the Spire.
Ok, bon, bah écoute.
Et du coup, Flavia, en termes de grosse table, j'ai cru comprendre que t'avais joué à un jeu où il fallait plutôt une grosse table en bois assez énorme. T'as joué à quoi, du coup?
Ouais, bah je te dis, comme Slay the Spire, c'est vraiment un jeu où, à voir de loin, j'avais absolument pas envie d'y jouer. C'est À la gloire d'Odin. J'avais fait un autour du jeu il y a quelques années sur ça, j'avais hésité entre Blood Rage, entre les pierres de la mer du Nord et tout, et finalement j'avais pris ça pour le côté que ça représente plein d'éléments de la vie d'un viking. Donc évidemment c'est un Rosenberg, hein, vous voyez le truc. C'est en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il est sorti en 2016.
Ouais.
Et il y a un côté un peu jeu somme de Rosenberg depuis Agricola, disons par là, parce que ça prend des éléments de ces jeux de pose d'ouvriers, donc Agricola, Caverna et compagnie.
Il y a des légumes.
Il y a des légumes, ouais, je crois. Oui, il y en a. Donc de blocage d'action, enfin, pose d'ouvrier classique avec des vikings à nourrir à la fin de ton tour, etc., etc. Ça, voilà, assez classique avec un nombre de tours. Et ça reprend aussi patchwork. Tu sais, le côté polyomino où va falloir que tu remplisses ton espace et tu perds des points si t'as pas rempli tes espaces, etc. Donc c'est vraiment... Alors ça reprend pas Mamma Mia ou Bonanza, hein, allez pas chercher aussi loin, parce qu'à la base c'était Rosenberg qui faisait ça, mais ça, ouais. Disons qu'il y a un côté un peu jeu somme qui est assez intéressant de ce point de vue-là, et qui il se joue de 1 à 4, et le mode solo, alors je l'ai essayé depuis, en fait c'est rigolo, dans Atiwa, qui est plus récent, il a repris un peu le mode solo de La gloire d'Odin, alors peut-être que c'était pas le seul d'ailleurs, mais où tu t'auto-bloques en fait d'un tour sur l'autre avec une autre couleur d'ouvrier, donc ça simule un peu le blocage qui est présent dans la pose d'ouvrier. Et donc, en fait, le gros problème de la gloire d'Odin, et pourquoi t'as pas envie d'y jouer quand tu vois ça, c'est parce qu'il y a 51 actions possibles.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc t'as un plateau de 51 actions de côté de la pose d'ouvrier. Et ça prend beaucoup de place. Et donc moi, effectivement, tu vois, enfin... À Tiwa, il y a aussi... Je t'avais fait jouer par Castor à Tiwa, il y a aussi beaucoup d'actions, mais en fait, c'est pas si imposant que ça, tu vois.
C'est absorbable.
Ouais, et en fait, finalement, la gloire d'Odin, c'est pareil. C'est d'ailleurs, moi, c'est Nico, Pierre Castor, que tu connais aussi, qui y a joué de quelques fois et tout, et il me disait, ah ouais, moi, depuis que je l'ai découvert, c'était vraiment une claque et tout, et je dis, bon, bah, ok, vas-y, moi, je suis curieux, hein, et il faut savoir que c'est le Rosenberg préféré de plein de monde, et du côté anglophone, c'est souvent dans les top 10 ou quoi. Je me suis dit, bah, vas-y, hein. Et au début, vous voulez me faire jouer avec l'extension Les Norvégiens, qui, a priori, c'est vraiment la meilleure expérience du jeu, hein. Tout le monde le dit que c'est presque une extension indispensable une fois que tu y as joué. Moi, je lui ai dit non. Fais-moi jouer quand même au jeu de base, parce qu'en fait, si j'y joue pas maintenant, j'y jouerai jamais au jeu de base. Donc, je préfère voir le truc vanilla, et puis, si ça me plaît, on pourra jouer avec l'extension une autre fois.
Alors, et puis, tu peux te retrouver avec une extension qui fait encore 51 nouvelles actions, du coup, tu te retrouves avec 102.
Ça rajoute des actions, mais a priori, ça fixe quand même pas mal de petits trucs et tout, et voilà. Mais on était trois, et puis, du coup, bon, ils étaient un peu déçus. Non, d'habitude, on joue avec ça et tout. Mais bon, Ils ont accepté ma requête. Et en fait, du coup, la veille, j'ai regardé une vidéo en anglais de 20 minutes et j'avais compris le jeu, quoi, en fait. Okay. Par contre, la partie a duré 3 heures, tu vois, donc c'est un jeu. Le poids BGG, c'est 3,86, donc c'est quand même costaud. C'est rigolo parce qu'avec Peter, j'avais découvert Maracaibo sur BGG il y a pas longtemps, où pareil, un gros truc. Et en fait, ça fait, c'est ces jeux-là où moi, je vois le poids sur BGG, j'ai absolument pas envie d'y jouer.
Ouais.
Mais finalement, en fait, t'as tellement l'habitude de ce genre de jeu que. Ça passe. Après, le Pfister, en plus, tu vois, Maracaibo, il est assez clean dans son truc. Et là aussi, finalement, en fait, c'est pas compliqué, c'est juste foisonnant. Mmh. C'est vraiment, à la gloire d'Odin, un vrai jeu bac à sable où t'as tes actions, mais en fait, tes 51 actions, tu vois, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, qu'est-ce que je vais choisir. En fait, ça va être déjà limité par les ouvriers des autres.
Parce que chaque action est unique ou...
En fait, c'est unique, mais sauf que c'est des gradations, si tu veux, d'un même type d'action, plus ou moins. Donc, en fait, tu vas avoir des lignes pour la chasse, tu vas avoir des lignes pour aller chercher des ressources, tu vas avoir des lignes d'action, ça va être plutôt faire de l'exploration. Tu en vas en avoir, ça va plutôt être aller piocher des cartes, ça va être aller construire des maisons, ça va être...
Donc, tu catégorises déjà tes actions avant de chercher dans le détail, quoi.
Mais t'as une vision assez directive du jeu ? Tu sais ce que tu dois faire ou tu te retrouves comme dans Aura et Labora où tu passes par des phases intermédiaires de transformation ?
Non, franchement, le tour de jeu est super simple en fait. En fait, là aussi, ça peut faire peur, l'aide de jeu, elle a je sais pas combien de phases, mais en fait, t'as la phase d'action qui est la seule. En fait, le reste, c'est quasiment que des phases d'entretien, quoi. Et donc, en fait, c'est comme dit, c'est foisonnant, c'est effrayant, mais c'est pas si compliqué. Je te dis, après 20 minutes d'explication en anglais, bah pouf, tu l'as, et puis moi j'arrivais, je pouvais jouer, et dans l'ensemble, à part quelques questions sur les cartes, voilà. Et donc je disais, ouais, t'as tes catégories d'actions, et en fait aussi c'est gradué, tu peux poser un viking, deux vikings, trois vikings ou quatre vikings, et ça va être une puissance d'action, ce qui fait que si tu joues que des quatre vikings, et ben en fait, tu vas vite arriver au bout de tes ouvriers, alors que si tu joues que des 1, tu feras des actions moins puissantes, mais voilà. Et finalement, donc, tu vois, il y a tout ça qui va se faire. Donc, si tu joues 4 vikings, bah, t'as posé 4 ouvriers d'un coup, donc t'en as plus tant que ça. Donc, tu vas... Et mine de rien, petit à petit, tu vas t'orienter quand même vers tes trucs et ça va retirer pas mal d'éléments d'action qui ne vont pas t'intéresser. Donc, en fait, très rapidement, t'arrives à dire bon, ben voilà, je vais plutôt faire ça ou je vais plutôt faire ça. Il me reste tant de vikings, je peux faire ça et ça. Vers la fin, tu fais un peu des calculs d'apothicaire, tu vois. Mais sinon, franchement, assez cool de ce point de vue-là. Et donc, je disais, un vrai jeu bac à sable. Et une vraie narration pour moi dans le jeu, tu vois, où tu vois, on parle de jeux de chill avec Dorf romantique, des fois avec Calico ou Canva. Pour moi, Calico et Canva, c'est vraiment contre. c'est contradictoire parce que pour moi, c'est des purs puzzles où tu te casses la tête à certains moments du jeu et où c'est absolument pas chill. Alors que là, finalement, il y a un côté de. Tu vis ta vie. Alors moi, je me suis fait éclater par eux deux. C'est-à-dire que le pote en question, il m'a mis deux fois mon score. Ce qui est normal, il y avait déjà joué et tout, et c'est bien qu'il y ait une progression. Moi, par exemple, tu vois, en fait, donc ça, c'est le côté pose d'ouvrier, le côté patchwork, c'est parce que t'as un plateau perso qui va te permettre d'avoir des revenus, donc, et sur lesquels, en fait, tu vas poser plein de polyomino que tu vas acquérir de plein de manières différentes, avec des contraintes qui sont bien rappelées sur le plateau perso. Donc, t'as des histoires d'adjacence que t'as pas le droit selon certaines couleurs de polyomino et tout.
Bon. Ok, classique là-dessus.
Ouais, ouais, et pas très compliqué. Le système de revenus, une fois que tu l'as assimilé, pareil, en gros, tu peux progresser que si t'as rempli certains trucs. Et il y a plein de cases qui vont te faire perdre des points sur ce plateau. Et donc, ça, c'est le côté plus puzzle où tu vas essayer de faire tes polyomino au mieux, sachant que. Pour les revenus, t'es un peu obligé de le faire pendant la partie parce que tu veux progresser en revenus, ou tu veux débloquer des actions bonus en les encadrant avec tes polyomino. Mais en fait, sinon, dans l'ensemble, tu peux garder tes trucs et puis faire des tests pendant que les autres font leurs actions et tout. Donc en fait.
Donc t'as pas vraiment de concurrence sur la pose d'ouvrier. Pas comme dans un Keylus ou.
Si, pose d'ouvrier, si. Ah ouais, parce que des fois, t'as des actions que t'as envie de faire et on te les prend, quoi. Quand bien même chacun fait un peu son truc de son côté, c'est-à-dire vit sa vie. C'est quand même avec des actions communes. Si, la concurrence, elle est là, notamment sur les actions à 3 ou 4, où vraiment, t'as des actions puissantes et tu veux pas passer à côté à certains moments. Enfin, ça a râlé plusieurs fois autour de la table, quoi.
Donc, comme tu disais que c'était assez chill, c'est pas qu'il y ait systématiquement des chemins alternatifs sur l'action principale que t'avais envisagée.
Ah non, t'es quand même contraint par les poses d'ouvriers, mais c'est chill du fait... disons que moi, j'ai vraiment le sentiment de vivre ma vie de viking, alors un peu imaginée, un peu romancée et tout, un peu fictive. Mais où, ben, en fait, je peux faire de l'élevage, je peux passer ma vie sans jamais chasser, je peux aller chasser, je peux aller explorer des îles qui vont être des nouveaux plateaux personnels avec des moins 1 à remplir, avec des potentiels de revenus, je peux construire des maisons qui vont être d'autres plateaux personnels, je peux aller explorer, je peux faire émigrer mes vikings pour avoir moins de vikings à nourrir, mais ça me fait perdre des bateaux, parce que, ben voilà. Et du coup, en fait, ça te donne vraiment l'impression de créer ta petite saga familiale, quoi.
Pas c'est une du saga, descendance version viking.
Ouais, mais tu vois, pas le côté trop épique, alors tu peux aller piller et tout, mais c'est une action parmi d'autres. Et alors peut-être qu'il y a des actions obligatoires, tu vois, par exemple, nous, notre partie, on a fait peu d'élevage, alors qu'en fait, si tu le fais tôt, c'est assez rentable, parce que ça te fournit de quoi nourrir. Bon, quand tu nourris, pareil, c'est une phase d'entretien, un peu comme dans Agricola, je sais pas si tu te rappelles, Père Castor, la partie qu'on avait fait avec Cyrus, mais... C'est pas trop punitif, c'est-à-dire que si tu te démerdes bien, t'arriveras à nourrir tes persos.
Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas eu de mendicité.
Et il faut faire gaffe parce que sinon ça te fait perdre des points. Mais tu vois, c'est pas les trucs les plus hardcore, quoi. C'est pas l'année du dragon ou quoi. T'es là, bon, bah ok, il me faut des trucs pour les nourrir. Bon, bah, au moins trouver un moyen, un moment dans le tour de les nourrir. Donc t'as ça, et puis à côté, t'as, comme dans Agricola aussi, du jeu de cartes. Où t'as plein de cartes métiers, et c'est des cartes chouettes. Tu vois, il y en a plein qui servent à rien, et je crois que dans l'extension, c'est un peu corrigé parce que tu peux les revendre ou des trucs comme ça. Là, il y en a plein qui m'ont servi à rien en termes d'effet, donc ils m'ont rapporté un peu de points, mais c'est pas pour les points que tu les joues, les cartes. Mais par contre, j'étais là, ah, c'est bien ça, mais pour une autre partie. Ou bien, ah, si je l'avais eu plus tôt, ça aurait été bien. Et tu vois, okay, ça, j'adore ça, ce genre de sentiment de, ah, putain, elle est bien cette carte. Et dans Agricola, c'est ce que je préfère, les cartes. Et au point que j'avais joué quasiment que des cartes. Et je m'étais fait latter. Là, j'ai joué beaucoup de cartes et je me suis fait latter aussi parce que j'ai pas assez rempli mon plateau perso. Mais donc, tu vois, il y a un côté, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, en général, ce genre de jeu où t'as de la pose d'ouvrier, de la pose de polyomino et tout, moi, j'aime pas trop ça parce que souvent, ça fait un peu boursouflé et ça fait un peu genre, t'as rajouté ça et ça fait un peu étouffe chrétien. C'est le cas de le dire. Mais là, je trouve pas. Je sais pas, il y a un truc cohérent. Alors, moi, j'aime pas la partie puzzle de Patchwork parce que, t'as toujours l'impression que tu pourrais faire mieux, notamment quand il faut que tu le fasses pour augmenter tes revenus, et que tu as telle ou telle tuile de telle ou telle forme, tu peux aller les chercher, t'as des objets de prestige que tu peux aller chercher qui ont des formes particulières. Et même si tu peux y réfléchir pendant le tour des autres, donc il n'y a pas trop de downtime, tu vois, je disais 3 heures, mais je me suis pas ennuyé du tout, quoi. J'ai pas eu l'impression de trouver le temps long. Et pourtant, le pote en question, il est assez lent à jouer, tu vois, et là, je n'ai pas trouvé, quoi.
Et c'est de la pose de tuiles, enfin de polymino définitif, où tu peux les réagencer ?
Non, tu ne peux pas les réagencer une fois que c'est posé, mais en fait, la plupart, tu n'as pas intérêt à les poser avant d'être sûr que ça te rapporte un truc, parce que sinon, tu les poses à la fin, en gros, et tu essaies d'optimiser ton puzzle.
D'accord.
Okay. Mais pour les trucs que tu vas poser en cours de jeu, bah, tu le fais pendant le tour des autres, et du coup, ça te laisse actif quand même pendant le tour des autres. Ouais. Moi j'aime pas cette partie là, clairement. Le puzzle c'est trop brain pour moi et j'aime pas l'optimisation dans les jeux quand c'est permanent.
Est-ce que c'est pas un mini-jeu dans le jeu qui en fait est presque comme si tu faisais une partie de Sudoku en même temps que faire ta partie d'Agricola, quoi.
Si, mais en plus le problème c'est que tu vois, en fait, les objets, tu vas avoir un marteau viking, tu vas avoir tel truc, et en fait j'arrive pas à le raccrocher à ce qui se passe dans la vie réelle des vikings.
D'accord.
En fait, les actions, tu vois, elles ont du sens. Par contre, remplir ma grille avec des polyomino,
bah ouais,
ça a pas de sens, quoi. Enfin, en plus, le marteau, il est gigantesque, il remplit la moitié de ma maison. C'est complètement con. Et du coup, tu vois, il y a aussi ce côté où t'es vraiment dans du pur jeu et où ça ne transmet aucune narration. Là où, sinon, je trouve que le jeu a une narration et à la fin, t'as vécu ta saga. Donc, j'ai vraiment bien aimé, moi, quand même. Tu vois, je comprends, c'est Open Included. Qui font des podcasts et qui font des chaînes YouTube. Et du côté anglophone, il y a souvent cette expression qui est c'est someone's favorite game, tu vois, c'est le jeu préféré de quelqu'un dans le monde. Mm-hmm. Et je comprends que ça puisse l'être, tu vois. Ça sera pas mon jeu préféré à moi parce qu'il y a trop d'éléments qui me laissent de côté. Mais je comprends que ça puisse vraiment être le gros kiff de quelqu'un. Et moi, franchement, enfin, tu vois, j'ai refait une partie en solo derrière et c'est quand même un jeu que t'as envie d'explorer. Parce qu'il est pas trop ardu, parce qu'il est foisonnant mais sans être repoussant, et que, ouais, en fait, c'est un vrai bac à sable, tu vois, où vraiment, tu te dis, bah, vas-y, là, cette partie-ci, un peu comme dans Breath of the Wild, où tu pouvais jouer sans chasser ou quoi, bah, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça.
Tu te crées tes défis, quoi. Tu te dis, j'oriente sur un truc un peu particulier, ouais, d'accord.
Et ouais, et du coup, vraiment, vraiment bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé, et je le ferai découvrir avec plaisir, tu vois, du monde, d'autant que, encore une fois, le système de jeu est super simple, quoi.
Et tes autres amis avec qui tu jouais, eux, ils sont aussi un peu dans cette dynamique de se dire c'est chill ou pas, parce que comme c'est pas leur première partie, j'imagine qu'il y a le côté un peu compétitif qui revient, et du coup est-ce que ça peut être quand même un jeu très stratégique pour des joueurs un peu chevronnés?
Ah oui, t'as des guides stratégiques de partout. Tu peux, en gros, t'as des stratégies, si tu veux progresser, il vaut mieux que tu fasses ci, ça, peut-être pas des martingales, tu vois, mais en tout cas des axes stratégiques qui sont à privilégier si tu veux faire un haut score. Moi, comme dans les deck building dans Hearthstone ou dans les Marvel Snap, je ne fais jamais ça. Je ne vais pas voir les trucs stratégiques. Ou bien c'est juste par curiosité. Mais j'aime explorer par moi-même, quoi. Et même si ça me fait des scores pourris. Là, tu vois, sur ma première partie à 3, je me suis dit, OK, j'ai juste pas assez rempli mon plateau. c'est comme ça, j'ai fait de l'émigration et tout, ou, tu vois, le pote en question, lui, il allait découvrir d'autres îles, et en fait, tu te rends compte que les autres îles, elles sont mieux que ton plateau de base en moyenne, donc ça vaut quand même le coup de les remplir avant et tout. Donc t'apprends, et tu vois, c'est pas une surprise qu'ils aient fait un meilleur score que moi, et tant mieux, enfin, c'est... Y a... Mais d'un autre côté, je l'ai pas vécu comme si j'avais subi ma partie, parce que d'un autre côté, moi, j'ai construit un truc au-delà de ma découverte du jeu, tu vois. Et du coup, ouais, ouais, ça vaut vraiment le coup d'être découvert sur BGA, il est dispo et tout, donc c'est là-dessus que j'ai refait en solo après. Mais je conseille quand même de le découvrir d'abord en physique pour se rendre compte un peu de la dynamique du truc. Mais ouais, vraiment, vraiment un bon Rosenberg, tu vois, et je suis content de l'avoir découvert, quoi.
Ok, cool. Bah, je le testerai du coup, parce qu'il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Moi, j'adore les polyminos. Donc en plus, si j'aime la partie que t'aimes pas, dans l'idée, ouais. Ça serait peut-être mon jeu préféré.
Ah, peut-être que ce sera ton jeu préféré.
Qui sait.
Et toi, Maxime, non, tu disais que t'avais fait du deck building aussi, alors t'as joué à quoi?
Non, bah écoute, on va encore reculer de 4 ans en arrière et on va retourner en 2012. Et je vais vous parler de Android Netrunner que j'ai découvert cette année.
Le fameux,
oui. Certains diraient que c'est un des meilleurs jeux du monde.
Ah, c'est aussi le jeu préféré de quelqu'un dans le monde. Hein. Même remonter en 96 si tu veux, parce que Netrunner à la base c'était ça.
C'est vrai que si on parle de la première édition du jeu qui était un jeu de cartes à collectionner qui a pas duré très longtemps.
Eh non, il est sorti en même temps que Magic. Hein.
Ouais.
Ah, ça fait mal.
Pourtant, c'est le même auteur. Alors deux auteurs sont crédités hein, sur BGG. Il y a bien sûr Richard Garfield et il y a aussi Lucas Litzinger qui est crédité dans les auteurs. Et alors comment j'ai découvert ce jeu? Il y a quelques années, lorsque FFG a décidé d'arrêter subitement le jeu suite au non-renouvellement de la licence par Wizards of the Coast, et ben rapidement tout ça s'est tombé en déstock. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter ça, je vais le mettre de côté, on va le mettre dans une armoire, comme une bouteille de vin, tu vois, ça va prendre un peu d'âge, ça va prendre un peu de tanin. Et avec Erwan, cette année, pour le week-end proxy jeu, on s'est tous les deux motivés, et on s'est dit, tiens, si on se ramenait nos Netrunner et qu'on faisait un petit peu de deck building pour y jouer. Donc c'était vraiment la première fois que je jouais au jeu cette année, et je remercie Erwan pour... de m'avoir motivé. Donc c'était vraiment une super expérience.
Lui, connaissait déjà ou pas?
Ouais, il avait déjà joué. Il avait déjà, okay. Il est déjà arrivé avec des decks
Déjà un peu bien pensés,
préparés. Ouais.
Sachant que c'est un living card game, donc les decks existent. Enfin, les cartes, tu savais ce que t'avais, quoi. C'est pas comme la Magic.
C'est ça. Et même la boîte de base, elle est suffisante pour déjà bien jouer au jeu, puisque tu vas avoir l'ensemble des factions dans la boîte de base. Donc tu peux vraiment voir toutes les factions présentes. Tu peux jouer dans chaque faction, tu vas avoir des identités différentes qui vont donner un petit bonus, un petit tax sur la manière de jouer. Et tu vas avoir les cartes de ta faction et des cartes neutres que tu vas pouvoir utiliser.
Les factions, t'en as deux, c'est ça? T'as Corpo et...
Non, il y en a plus.
Ah, ok.
En fait, t'as deux factions effectivement qui s'affrontent. D'ailleurs, les dos des cartes sont bleus pour les corpos, rouges pour les runners. Tu peux pas les mélanger. Tu peux pas faire
Ouais, c'est ça. Ouais.
Okay. Ouais, c'est vraiment déjà t'as une scission si tu joues corpo ou si tu joues runner. Alors au niveau de la thématique, t'es dans un monde cyberpunk qui fait référence à Blade Runner, Matrix. Tu vois, tu retrouves un peu toutes ces références de monde futuriste. Qui a mal tourné, ou d'ailleurs tu sais pas vraiment qui est le bien, qui est le mal, c'est pas clairement...
Ouais, c'est pas manichéen.
Et moi venant professionnellement de l'informatique, en plus c'est des choses qui me parlent, puisque ça va parler de hacking, ça va parler de matériel informatique. Ouais, de sécu informatique, et tu retrouves tout un tas, tout le jargon de l'informatique dans le jeu, dans les cartes, et dans la thématisation qui est donnée, ça c'est pas mal. Alors, ce qui est bien dans ce jeu d'affrontement, c'est que t'es pas dans un Magic classique où ton but, c'est de faire tomber à zéro les points de vie de l'adversaire. Tu vas avoir différentes manières de gagner. Alors déjà, chaque camp a sa manière de jouer. Pour schématiser, je vais pas rentrer dans tous les détails de règles, il y en a pas mal. Sachant que le poids BGG du jeu, j'étais assez étonné, il est assez élevé, il est de 3,41. Je pensais que...
Oui, ok, c'est beaucoup.
Pourtant, il est pas... la gloire d'Odin, tu disais c'est 3,81, tu vois, pourtant il me semble moins complexe.
Ouais, après dans la gloire d'Odin, ouais, tu peux te laisser porter facilement. Je sais pas, je, trouve que ce serait presque plus abordable à gloire de l'un que Netrunner où t'as plein de cartes à lire et tout, quoi.
Après, peut-être le côté confrontation fait que forcément, comme c'est une confrontation directe, peut-être qu'en effet, dès qu'une personne est un petit peu en dessous en termes de connaissances, elle va se faire rétamer. Donc, je sais pas si c'est un effet sur les notes.
Ce qui va être délicat, parce qu'au début, j'avais étudié que le jeu côté corpo. Et c'est vrai qu'il fallait que je suive pour savoir qu'est-ce que pouvait faire mon adversaire et comment est-ce qu'il pouvait m'atteindre. Donc en fait, tu as cette double connaissance à avoir de comment...
Un peu comme dans Route quand il faut connaître les factions, quoi.
C'est ça, parce que pour te défendre, il faut que tu saches comment il va t'attaquer. C'est un peu... Puisque toi, tu l'attaques pas de la même manière. Donc en fait, son système de défense n'est pas identique au tien.
D'où les White Hat et les Black Hat, finalement, qui sont qui l'un et l'autre travaillent un peu ensemble, travaillent soit pour le gouvernement ou soit à un moment de façon indépendante pour faire le mal. Enfin, ils se croisent pas mal, finalement, ces gens-là. Donc, je pense que ça reprend un petit peu cette idée, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si on parle du côté corpo, tu vas avoir 4 corpos dans l'univers du jeu que tu retrouves dans la boîte de base et chacune des corpos a, on va dire, ses axes principaux de jeu. Mais quand tu vas faire ton deck building, tu vas choisir une identité d'une corpo et tu vas plus ou moins être obligé de prendre des cartes d'affinité qui appartiennent à cette corpo, mais tu as la possibilité d'aller chercher des cartes dans d'autres factions, corpo, mais selon un nombre limité. Chaque carte va avoir des points d'influence et tu vas être limité par le nombre de points d'influence extérieurs que tu vas pouvoir ramener.
Ok, ça caractérise finalement ton personnage, parce que ce que tu es en train d'incarner.
C'est ça, ouais. Donc en fait, ton identité, elle va dire quelle est la taille mini du deck que tu vas devoir faire et le nombre de points d'influence qu'il a, c'est-à-dire de cartes hors faction native que tu vas pouvoir embarquer. Sachant que
c'est comme si tu faisais une armée Warhammer qui est une armée de telle espèce, mais que tu as le droit d'incorporer tant de points de telle autre espèce, quoi.
C'est ça. Ouais, c'est un peu. Et d'ailleurs, tu es aussi limité en nombre d'exemplaires de cartes.
Ouais.
Tu peux pas mettre plus que 3 fois la même carte dans ton jeu. Alors moi, j'aime beaucoup le côté deck building, hein, puisque ça te permet de. En fait, tu joues déjà ta partie quand tu es seul face à tes tas de cartes éparpillées un peu partout. Et t'imagines comment va se passer ta partie. Je vais jouer comme ça. Lui, il va tenter un truc à. Il va tenter une manœuvre, toi tu vas tenter un bluff, parce que la partie bluff est très présente dans le jeu. Parce que quand tu joues corpo, une des manières de gagner, c'est notamment de faire avancer tes projets. Donc tu vas mettre face cachée des cartes qui représentent des projets. Le runner ne sait pas si ce sont des projets, si ce sont des pièges. Toi tu vas pouvoir les faire avancer. Donc pour donner l'impression que ce sont des projets, et une fois qu'ils ont atteint un certain nombre de points d'avancement, tu vas les scorer. Et ton but, c'est de scorer 7 points de projet. Et à l'inverse, le runner, lui, un de ses buts, mais ce n'est pas le seul, pour gagner, c'est de te voler ses fameux projets. Donc en fait, tu lui ouvres un pot de miel et c'est à lui de voir est-ce qu'il s'y mise ou pas.
D'accord, ok. Ça serait un peu finalement l'analogie avec des serveurs sur lesquels il y aurait des données confidentielles ou ce genre de choses.
Oui, c'est exactement comme ça que c'était.
T'as plein de serveurs fictifs, etc. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et devant ces serveurs, tu vas pouvoir mettre ce qu'on appelle des glaces, c'est-à-dire des systèmes de protection qui vont déclencher des effets, soit bénéfiques pour toi, soit infliger des dommages au runner, soit lui faire défausser des cartes. Et une manière aussi de gagner pour la corpo, c'est de faire en sorte que le runner ait défaussé toutes ses cartes.
D'accord, ok.
À l'inverse, le runner, un de ses objectifs, ça peut aussi être de te meuler complètement ta pioche.
Ok.
Donc en fait, il y a plusieurs arcs. Ouais, plusieurs facettes dans le jeu. Tu peux essayer d'abord de t'orienter sur le scoring de projet, après de te réorienter plutôt sur les dégâts que tu vas faire au runner. Enfin, c'est ultra riche.
Du coup, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est défensif et l'autre offensif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu un mix des deux. Quoi, parce que je me disais peut-être que si tu tiens les serveurs, bah, tu es très défensif. Mais non, tu as quand même aussi une façon de gagner. Ouais. Pour essayer de mettre out finalement le runner.
Ouais, tout à fait. Il y a une partie comme ça, c'est la seule partie que j'ai gagnée contre Erwan. C'est d'ailleurs comme ça où, en plus, une partie elle a duré 2-3 minutes où j'ai réussi à un moment sur une attaque. Lorsqu'il était en train de m'attaquer un de mes serveurs, j'ai eu une sorte de contre-mesure qui a permis de lui faire défausser l'ensemble de ses cartes et ça l'a mis KO.
Ok. C'est intéressant.
Mais sinon, il est, ouais. C'est principalement lui qui, chaque fois, me vole tous mes projets parce que soit je les ai mal défendus ou,
tu
ou c'est une vraie passoire, mes serveurs.
T'as joué que Corpo ?
Ouais, j'ai joué que Corpo pour le moment. Okay. Alors, avec Erwan, on joue beaucoup en ligne. Je suis assez étonné du nombre de ressources en ligne qui existent sur le jeu, malgré la, on va dire, l'ancienneté du jeu et le fait qu'il est, bah, qu'il est disparu dans sa forme originelle. J'en parlerai un peu après, hein, sur la reprise du jeu. Mais on joue sur le site jinteki.net. Jinteki, en plus, pour la parenthèse, c'est le nom d'une faction corpo. Okay. Et dessus, tu as toutes les cartes et tu peux créer tes decks. Et tu peux jouer en ligne comme si tu jouais sur BGA.
En direct ou en asymétrique?
On joue en direct. Ouais. Okay. On se met en direct, on se met sur Discord et on se fait nos parties. Et pour préparer nos decks, alors moi j'utilise le site NetrunnerDB où t'as la base de données de toutes les cartes. Tu peux créer tes collections donc par rapport aux cartes physiques que t'as. Tu peux aussi cocher quels sont les sets de cartes que tu as. Comme ça va te proposer uniquement les cartes qui sont dans ta collection. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je crée des cartes et des decks en virtuel que par rapport aux cartes physiques que j'ai réellement.
Tu pourrais refaire en physique, oui.
Ouais. Okay. Et t'as une application mobile aussi sur laquelle tu peux lier. Et des fois, quand j'ai rien à faire, je me balade sur l'appli et je regarde des cartes. Ouais. Et après, tu peux les exporter pour les importer dans Jinteki pour jouer les cartes que les decks que tu t'es créé ailleurs.
Ok.
Et aujourd'hui, le jeu, il a été repris par un nouvel éditeur qui était au départ composé d'un collectif de joueurs. L'éditeur, c'est Null Signal Games. Okay. Alors, ils ont gardé le système et par contre, ils ont épuré tous les éléments de la licence Android. Mais le cœur du système, lui, est toujours identique.
Mais ils ont réussi à avoir les droits et tout ?
Ben, sur la partie méca, ouais.
Ok.
Alors, il y a pas mal d'articles sur le net, ils expliquent un petit peu comment tout ça s'est passé. J'ai pas trop creusé, mais... On peut acheter ils font du microprinting de jeux, donc tu peux acheter leur game system. Et par contre, les cartes sont compatibles avec les anciennes.
D'accord.
En tout cas, pour le jeu de loisirs, pour toute la partie compétition, il y a énormément de cartes qui sont devenues un peu comme dans Magic, hein, les cartes interdites. T'as plusieurs modes de jeu qui autorisent certains sets,
bah,
certains qui les interdisent.
Ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne découverte. Et,
Est-ce que ça t'a donné envie de jouer Runner, du coup, d'avoir fait qu'un seul côté? Est-ce que tu veux faire l'autre maintenant?
Bah, je vais commencer à m'y intéresser, ouais, parce qu'il y a... Maintenant que je vais pas dire que je commence à maîtriser, mais je vois les tenants et aboutissants des... Alors en plus, j'ai joué principalement qu'une corpo. Je me suis...
Pour un peu creuser.
C'est ça, ouais. Mais effectivement, là, pour autant, t'as l'impression que les corpos, elles sont ultra puissantes, elles ont énormément de moyens, mais tu peux te retrouver limité en nombre d'actions. Et ça m'a donné un peu la même sensation que dans le jeu GMT Labyrinthe, où tu joues les US contre l'État islamique, où bah, les US, ils ont énormément de moyens, mais au bout d'un moment, ils se retrouvent quand même limités dans leurs actions. J'avais un peu la...
C'est la paperasse, ça. Hein.
Toute la bureaucratie et t'as pas la liberté
c'est
d'action.
C'est ça, ouais. C'est la simulation de la paperasse. Ouais.
Ouais. Écoute, tu sais quoi, on se retrouve à l'entrée, mais tu sais, je vais faire ton été. Tu sais pourquoi? Parce que Garfield, il a signé un jeu chez GMT.
Arrête.
Sous le P500, la Founders of Revic, un jeu économique et tout. Donc, tu vois, tu parlais de GMT avec Labyrinthe. Ben, la rencontre entre Garfield et GMT, c'était la rencontre que tout le monde attendait, peut-être ou pas, mais en tout cas, c'est une rencontre curieuse. Voilà.
Ouais.
On en parlera du coup, ça.
Ah, peut-être. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Et puis, on se retrouve peut-être du coup. C'est que à deux, hein, Netrunner. Hein. Il y a toujours pas de.
Ouais.
Il doit y avoir des modes à quatre ou quoi, non, mais.
Ouais, non, mais bon.
Ça va être une liste.
Vaut mieux jouer.
Ouais, c'est un jeu à deux. Ça roule. Bon, bah écoutez, merci. Puis bon courage avec la chaleur.
On va survivre.
Il faut réhiberner maintenant, du coup. C'est bon.
Allez, ciao. Fais bien, ciao.
À plus.
Bye bye.